Chapitre 4.
Peut-être que j'ai peur qu'il m'arrive la même chose qu'à lui, conjecture Eric. Un endroit assez malin pour avoir Dave pourrait certainement en faire autant avec moi.
Ça ne semblait pourtant pas être le problème.
Je vois que vous avez apporté vos renseignements sur cette nouvelle unité cérébrale, dit le commissaire Bryant après avoir raccroché.
Oui.
J'en ai entendu parler par mes informateurs.
Combien y a-t-il d'Andros impliqués?
Mais jusqu'où Dave est-il allé?
8 pour commencer,
fit Bryant en consultant son bloc-notes.
Dave en a retiré 2.
Et les 6 restants se trouvent ici?
En Californie du Nord?
Pour ce que nous en savons.
Dave est de cet avis. C'est lui que j'avais au bout du fil. J'ai récupéré ses notes. D'après lui, tout ce qu'il sait se trouve là-dedans.
Bryant tapotait la liasse de feuillets, visiblement guère décidé à les passer à Descartes. Pour quelque raison, il continuait à les parcourir, sourcils froncés, faisant jouer sa langue à la commissure de ses lèvres.
« Mon agenda est vide. »
hasarda Rick.
« Je suis prêt à prendre la place de Dave. »
Il a utilisé une échelle de Voight-Kampff modifiée pour tester les individus qu'il soupçonnait, dit Bryant d'une voix songeuse.
Vous comprenez, du moins je l'espère, que ce test ne s'applique pas spécifiquement à ces nouvelles unités cérébrales. Aucun ne le fait. Le seul dont nous disposions, c'est l'échelle de Voight que Kampff a modifiée il y a 3 ans.
Il marqua une pause pour réfléchir.
Dave l'estimait efficace. C'est peut-être le cas. Mais avant que vous ne vous mettiez en chasse, j'aimerais vous suggérer ceci.
Il se remit à tapoter la pile de notes.
Allez à Seattle parler aux gens de la Fondation Rosen. Demandez-leur de vous fournir un échantillon représentatif de modèles équipés du nouveau Nexus 6.
Et je leur fais passer le Voight-Kampff.
« Ça a l'air si facile à vous entendre, »
fit Bryant à moitié pour lui-même. « Pardon ?»«
Je pense prendre contact directement avec la Fondation Rosen pendant votre trajet. »
Puis il dévisagea un instant Rick sans rien dire. Il se mâchonna un ongle en grognant et se décida enfin à dire le fond de sa pensée.
« Je vais discuter avec eux de la possibilité d'inclure plusieurs humains dans leur sélection. » Mais vous n'en saurez rien. La décision me reviendra, en conjonction avec les fabricants. Tout devrait être prêt le temps que vous arriviez. »
Le visage grave, il brandit brusquement un doigt en direction de Rick.
« C'est la première fois que vous allez agir comme chasseur de primes senior. Dave en connaît un rayon. Il a des années d'expérience derrière lui. »
« Moi aussi. »
répliqua Rick d'une voix tendue.
« Les missions qui vous ont été confiées dépendaient du planning de Dave. Il a toujours décidé seul lesquelles vous déléguez et lesquelles il se réservait. Mais maintenant, vous vous retrouvez avec 6 Andros qu'il comptait bien retirer lui-même, parmi lesquels il y en a un qui a réussi à l'avoir. Celui-ci. »
Bryant tourna les notes en direction de Rick.
« Max Polokoff. Du moins... est-ce le nom qu'il s'est choisi? À supposer que Dave ne se soit pas trompé. Tout repose en fait sur cette supposition, toute cette liste. Et pourtant, seuls 3 d'entre eux ont été testés au Voight-Kampff, les 2 que Dave a retirés et Polokoff. C'est pendant que Dave le lui faisait passer qu'il lui a tiré dessus. »
Ce qui tend à prouver que Dave avait raison,
fit Rick,
sans quoi il ne se serait pas fait tirer dessus. Polokoff n'aurait eu aucune raison de le faire.
Vous partez pour Seattle,
dit Bryant.
Ne les prévenez pas. Je vais m'en charger. Écoutez.
Il se leva, puis vint posément faire face à Rick.
Quand vous utiliserez le Voight-Kampff là-bas, si jamais un humain échoue,
c'est impossible, fit Descartes.
J'en ai justement parlé avec Dave il y a quelques semaines. Il pensait exactement la même chose. J'ai reçu un mémo de la police soviétique, rien de moins que la section russe de l'OMP qui a circulé partout sur Terre et dans les colonies. Un groupe de psychiatres de Leningrad a approché l'OMP avec la proposition suivante. Ils veulent que le plus récent et le plus précis de nos tests analytiques de personnalité, autrement dit l'échelle de Voight-Kampff, soit essayé sur un groupe soigneusement sélectionné de patients humains, schizoïdes ou schizophrènes, en particulier ceux qui présentent ce qu'on appelle un aplatissement de l'affect. Vous en avez déjà entendu parler ?
C'est exactement ce que mesure l'échelle.
Alors vous comprenez ce qui les inquiète.
Le problème a toujours existé, depuis l'apparition des androïdes humanoïdes.
Vous connaissez l'article que Larry Kempf a publié il y a 8 ans qui résume le consensus d'opinion de la police à ce propos. Blocage de la socialisation chez le schizophrène inaltéré. Kempf a comparé la diminution des facultés empathiques des patients humains avec l'absence superficiellement similaire. Bryant l'interrompit avec rudesse.
Les psychiatres de Leningrad pensent qu'une petite catégorie d'êtres humains serait incapable de réussir le Voight-Kampff. Si vous les testiez conformément au protocole de la police, vous les prendriez pour des robots humanoïdes. Vous vous seriez trompé, mais eux seraient morts dans l'intervalle.
Il se tut, en attente de la réponse de Rick.
Mais ces individus, fit celui-ci, seraient tous dans des institutions.
Convint Bryant.
Ils seraient proprement incapables de s'adapter au monde extérieur. Leur condition de psychotique à un stade avancé ne pourrait certainement pas passer inaperçue, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'une dépression aussi récente que soudaine, que personne dans leur entourage n'aurait remarqué. Mais ça pourrait arriver.
Une chance sur 1 million, fit Rick, mais il avait compris.
Ce qui inquiétait Dave, reprit Bryant, c'était l'apparence même des nouveaux Nexus 6. Comme vous le savez, la Fondation Rosen nous a assuré qu'ils pouvaient être détectés avec les tests de profil standard, et nous les avons crus sur parole. À présent, nous sommes obligés, comme nous nous en étions doutés, de le déterminer par nous-mêmes. C'est ce que vous allez faire à Seattle. Vous comprenez, je l'espère, que tout ceci pourrait mal tourner d'un côté comme de l'autre. Si vous n'arrivez pas à identifier tous les robots humanoïdes, ça voudra dire que nous ne disposons d'aucun outil analytique fiable et que nous ne retrouverons jamais ceux qui se sont échappés. Et si votre test confond un sujet humain avec un androïde ?
Bryant le gratifia d'un regard glacial.
Ce serait délicat. Même si personne, et certainement pas les Rosen, ne rendra la nouvelle publique. En fait, nous allons pouvoir garder cela secret indéfiniment, dès lors bien sûr que nous en informons l'OMP qui ne manquera pas d'en avertir Leningrad. Au bout du compte, ça finira quand même par nous revenir à la figure. Mais nous aurons peut-être été développer un nouveau test d'ici là.
Il décrocha son vidéophone.
Vous voulez y aller ? Prenez un véhicule du service et faites-le plein à nos pompes.
Rick se leva. Je peux prendre les notes de Dave avec moi. Je veux les étudier en chemin.
Attendons les résultats de vos tests à Seattle.
Le ton de sa voix avait quelque chose d'impitoyable. Ce que Rick Descartes ne manqua pas de noter. Quand il eut posé l'aéromobile du service sur le toit de l'immeuble de la Fondation Rosen à Seattle, il y trouva une jeune femme qui l'attendait. Mince. Les cheveux noirs, portant sur le nez d'immenses lunettes filtrantes d'un modèle très récent, elle s'approcha de son véhicule, les mains profondément enfoncées dans les poches de son long manteau rayé de couleur vive. Sur son petit visage fin ou trianguleux planait une expression de dégoût maussade.
Un problème ?
S'enquit Rick tandis qu'il sortait de son véhicule.
Oh,
je n'en sais rien. Répondit indirectement la jeune femme. « Quelque chose à propos de notre conversation téléphonique, ça n'a pas d'importance. » Elle tendit brusquement la main qu'il serra d'un geste réflexe. « Je m'appelle Rachel Rosen. Vous êtes Rick Descartes, je suppose. »
« Ce n'était pas mon idée. »
« Oui, le commissaire Bryant nous l'a expliqué.
Vous représentez néanmoins officiellement le département de police de San Francisco, qui ne croit pas que notre Nexus 6 soit d'intérêt public. » Elle le mesura d'un regard couronné de longs cils sombres, probablement artificiels. « Un robot humanoïde ne diffère en rien des autres machines. » Fit Rick. « Il peut passer en un clin d'œil de bienfait à danger. Tant qu'il reste un bienfait, ça n'est pas de notre ressort. » Mais lorsqu'il se transforme en danger, fit Rachel Rosen, vous entrez dans la danse. Êtes-vous vraiment un chasseur de primes, monsieur Descartes? Il haussa les épaules, puis hocha la tête à contre-cœur. Vous n'avez aucune difficulté à voir un androïde comme une chose inerte, fit la jeune femme. Ça vous permet de le retirer, comme on dit. Avez-vous sélectionné un groupe test à mon intention? J'aimerais. Descartes s'interrompit. Ils venaient de voir leurs animaux. Une compagnie aussi puissante, se dit-il aussitôt, aurait forcément les moyens de se les offrir. Confusément, bien sûr, il s'était attendu à pareil spectacle. Ce n'était d'ailleurs pas tant de la surprise qu'il éprouvait qu'une espèce de vif désir. Il s'éloigna de la fille d'un pas tranquille pour s'approcher de l'enclos le plus proche. Déjà il les sentait, les multiples odeurs des créatures debout, couchées ou, dans le cas de ce qui se révéla, un raton laveur, endormi. Jamais de toute sa vie, il n'en avait vu personnellement. Il ne connaissait cet animal que par l'intermédiaire des films en 3D qui passaient à la télévision. Pour une raison quelconque, les retombées avaient frappé cette espèce presque aussi durement que les oiseaux, qui avaient presque tous disparu désormais. D'un réflexe machinal, il sortit son Sydney tout écorné et se mit en quête de la sous-catégorie raton laveur. La liste des prix, évidemment, apparaissait en italique. À l'instar des percherons, aucun raton laveur n'était disponible sur le marché. Le Sydney se bornait à signaler le prix de la dernière transaction ayant impliqué cet animal. Un chiffre astronomique. Il s'appelle Bill, fit la fille dans son dos. Bill, le raton laveur. Nous l'avons racheté l'année dernière à l'une de nos succursales. Elle désigna quelque chose derrière lui. Les gardes armés de la compagnie, équipés de petites mitrailleuses Skoda à tir rapide. Leurs yeux avaient dû rester braqués sur lui depuis l'atterrissage de sa voiture. Et puis mon aéromobile est clairement identifié comme un véhicule de police. Un des principaux fabricants d'androïdes, fit-il pensivement, investit donc ses bénéfices dans les animaux vivants. Regardez la chouette, dit Rachel Rosen. Je vais la réveiller pour vous. Elle partit vers une petite cage distante, au centre de laquelle s'élevait un arbre mort. Les chouettes ont disparu, s'apprêta-t-il à dire. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Le Sydney les classe ainsi, avec ce minuscule D, ce caractère précis qui revient sans cesse dans tout le catalogue. Il profita du fait que la fille marche devant lui pour vérifier. Il avait raison. Le Sydney ne fait jamais d'erreur, ça aussi nous le savons. À quoi pourrions-nous nous fier sinon? Elle est artificielle, comprit-il soudain, pour aussitôt sentir une terrible déception monter en lui. Non, elle sourit, ce qui lui permit de voir qu'elle avait de petites dents régulières, aussi blanches que ses yeux et ses cheveux étaient noirs. Mais la liste du Sydney, il voulait lui montrer le catalogue pour le lui prouver. Nous n'achetons jamais d'après le Sydney, coupa-t-elle, ou même au moindre marchand d'animaux. Toutes nos acquisitions se font à des parties privées, et nous n'en dévoilons jamais le montant. En outre, ajouta-t-elle, nous avons nos propres naturalistes. Ils sont en train d'œuvrer au Canada. Il y reste encore un certain nombre de zones forestières, tout est relatif bien sûr, assez en tout cas pour de petits animaux, et même un oiseau de temps à autre. Il resta un bon moment à contempler la chouette assoupie sur son perchoir. Un millier d'idées se bousculaient dans son esprit, à propos de la guerre, des journées durant lesquelles les chouettes étaient tombées du ciel. Il se rappelait comment, alors qu'il n'était qu'un enfant, On avait découvert que les espèces disparaissaient l'une après l'autre, les journaux qui en faisaient le compte-rendu chaque jour, les renards un matin, les blaireaux le suivant. Jusqu'à ce que les gens finissent par cesser de lire cette litanie de nécrologie animalière. Il songeait aussi à son besoin de posséder un véritable animal, une fois encore. Il sentit une haine réelle s'emparer de lui à l'égard de son mouton électrique qu'il devait garder, entretenir comme s'il avait été vivant. « La tyrannique des objets », pensa-t-il. « Il ne sait même pas que j'existe. Tout comme les androïdes, il est incapable d'avoir conscience de l'existence d'autrui. » Jamais il n'y avait songé auparavant à cette similitude entre un animal électrique et un andro. L'animal électrique, réfléchit-il, pourrait être considéré comme une espèce très inférieure de robot. Et inversement, on peut voir un androïde comme une forme perfectionnée, évoluée d'animal électrique. Les deux points de vue lui inspiraient de la répulsion. « Si vous vendiez votre chouette, reprit-il, combien en demanderiez-vous? Et avec quel acompte? Jamais nous ne la vendrions. » Elle le considérait avec un mélange de plaisir et de pitié. Du moins, en eut-il le sentiment à voir son expression. « Et quand bien même nous la vendrions, vous ne pourriez certainement pas vous l'offrir. »« Quel genre d'animal avez-vous chez vous ?»«
Un mouton. » »«
Une brebis Suffolk à tête noire. » »« Eh bien, ça doit suffire à vous combler. » »«
J'en suis content. »
répondit-il, c'est juste que j'ai toujours voulu une chouette, avant même qu'elle ne rende toute l'âme, toute sauf la vôtre. Se corrigea-t-il. Nous avons un programme intensif de recherche d'une chouette supplémentaire pour l'accoupler avec Scrappy. D'un geste de la main, elle désigna le volatile occupé à somnoler sur son perchoir. Il avait brièvement ouvert les yeux, deux fentes jaunes qui se refermèrent presque aussitôt comme l'animal se réinstallait pour poursuivre sa sieste. Sa cage thoracique se souleva ostensiblement, puis retomba, comme si la créature, dans son état hypnotique, avait poussé un soupir. Il s'arracha à ce spectacle. Une amertume absolue remplaçait peu à peu en lui sa réaction première de convoitise admirative.
« J'aimerais commencer à tester votre sélection.
Pouvons-nous descendre ? » C'est mon oncle qui a pris l'appel de votre supérieur. Il a probablement...
Votre oncle ?
L'interrompit Descartes. Une entreprise de cette taille est une affaire de famille ? À l'heure qu'il est, poursuivit la jeune femme sans même relever sa remarque, oncle Eldon doit avoir constitué un groupe d'androïdes et un autre de contrôle. Allons-y. Elle marcha à grands pas vers l'ascenseur, les mains enfoncées de plus belle dans les poches de son manteau, sans même se retourner. Rick hésita un instant, contrarié, mais finit par la suivre en traînant les pieds.
« Qu'est-ce que vous avez contre moi ?»
lui demanda-t-il tandis qu'il descendait. Elle réfléchit, comme si jusque-là elle n'avait pas songé à la question. « Eh bien, le petit employé de la police de San Francisco que vous êtes se retrouve dans une position assez incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ?» Elle lui jeta un regard de biais débordant de malveillance.
« Quelle proportion de votre production actuelle représente les modèles équipés du Nexus 6 ?»«
100%. »«
Je suis sûr que l'échelle de Voidkampf fonctionnera avec eux. » »«
Et dans le cas contraire ?» Nous allons devoir retirer tous les Nexus 6 du marché. » Ses yeux noirs flamboyaient. Elle lui lança des regards mauvais jusqu'à ce que l'ascenseur ait cessé sa descente et que ses portes se fussent ouvertes. Juste parce que la police n'est pas capable de faire correctement un travail aussi simple que de détecter l'infime proportion de Nexus 6 qui se sont... Un svelte et sémillant vieillard s'avançait à leur rencontre, main tendue. L'expression soucieuse qu'arborait son visage tendait à prouver que les événements s'étaient mis à se succéder beaucoup trop vite pour lui ces derniers temps.
« Je suis Eldon Rosen, »
dit-il en saluant Rick.
« Écoutez, Descartes,
Vous comprenez bien que nous ne fabriquons rien ici sur Terre, n'est-ce pas? Ça ne se résume pas à un simple coup de téléphone au service production pour leur demander de nous envoyer diverses marchandises. N'allez pas croire que nous refusions de coopérer avec vous, mais j'ai fait au mieux de mes possibilités. »
Sa main gauche se mit nerveusement à errer dans ses cheveux clairsemés. Rick désigna sa mallette.
« Je suis prêt à commencer. »
La nervosité de l'aîné des Rosen raffermissait sa propre confiance.
« Ils ont peur de moi. » Comprit-il tout à coup, y compris Rachel Rosen. « Je peux les forcer à abandonner la fabrication de leur Nexus 6. Ce que je vais faire dans l'heure va avoir des conséquences sur la structure même de leur entreprise. Je tiens probablement entre mes mains l'avenir de la Fondation Rosen, ici aux États-Unis, mais aussi en Russie et sur Mars. »
Les deux Rosen l'étudiaient avec appréhension. Ils sentaient avec quel manque de sincérité ils se comportaient. En venant les voir, il leur avait apporté la menace du vide, le silence oppressant de la mort économique.
Ils ont entre leurs mains un pouvoir démesuré. Cette entreprise est considérée comme l'un des pivots industriels du système. En fait, la fabrication des androïdes est devenue tellement intrinsèque à l'effort de colonisation que la chute de l'un entraînerait certainement celle de l'autre au bout du compte.
Et bien sûr, la Fondation Rosen le comprenait parfaitement. Eldon Rosen n'avait manifestement pas cessé d'y réfléchir depuis l'appel de Bryant.
« Je ne m'inquiéterai pas trop à votre place. » dit-il aux deux Rosen qui l'emmenaient dans un large couloir brillamment illuminé.
Il se sentait absolument ravi. Ces instants lui donnaient plus de plaisir qu'il ne se souvenait en avoir jamais éprouvé. Eh bien, ils allaient bientôt être fixés sur ce que son appareillage pouvait accomplir ou pas.
« Si vous ne vous fiez pas à l'échelle Voidkampf, leur fit-il remarquer, rien n'empêchait votre organisation d'entreprendre des recherches pour en mettre au point un autre. On pourrait vous considérer comme en partie responsable de cette situation. »
Oh, merci.
Les Rosen l'avaient fait entrer dans une petite cabine moquetée pourvue de lampes, d'un canapé et d'une petite table moderne sur laquelle s'étalait un choix de magazines récents, y compris, nota-t-il, le supplément de février du Sydney, que lui-même n'avait pas encore vu. Pour la simple et bonne raison qu'il ne devait sortir que 3 jours plus tard. À l'évidence, la Fondation Rosen entretenait des rapports étroits avec le Sydney. Il s'empara du supplément d'un geste agacé.
Ceci va à l'encontre de l'intérêt général. Personne ne devrait avoir à l'avance des informations sur les fluctuations des prix.
En fait, ça pouvait même enfreindre une quelconque loi fédérale. Il tenta de se rappeler laquelle s'appliquait en pareilles circonstances, en vain.
« Je prends ça avec moi. »
Et de laisser tomber le supplément dans sa mallette.
« Écoutez, inspecteur !»
finit par déclarer Eldon Rosen, au terme d'un long silence.
« Nous n'avons jamais eu pour politique de solliciter en avant... »«
Je ne suis pas inspecteur, »
fit Rick.
« Je suis un chasseur de primes. »
Il extirpa de sa mallette ouverte l'appareillage du Voidkampf, s'assit à une table basse en bois de rose et commença à assembler les instruments polygraphiques.
« Vous pouvez m'envoyer le premier sujet, »
informa-t-il Eldon Rosen, qui semblait plus hagard que jamais. Rachel s'assit à son tour. « J'aimerais regarder. Je n'ai jamais vu personne faire passer un test d'empathie. » Qu'est-ce que ces choses-là sont censées mesurer?
Ceci.
Il souleva le disque adhésif duquel s'échappaient des fils électriques. Ceci mesure la dilatation capillaire dans la zone faciale. Nous savons qu'elle va refléter une réaction automatique primaire, comme le fait de rougir face à un stimulus moralement choquant. On ne peut pas la contrôler par la volonté. À l'inverse de la conductivité épidermique, de la respiration ou du rythme cardiaque. Il lui montra alors le deuxième instrument, un crayon lumineux. Celui-ci enregistre les variations de tension dans les muscles oculaires. En même temps que le phénomène de rougissement, on peut généralement détecter un petit mouvement de «
qu'on ne détecte pas chez les androïdes »,
fit Rachel. Les questions stimulus n'en engendrent pas chez eux, non. Bien qu'elles existent biologiquement, potentiellement.
Faites-moi passer ce test.
Pourquoi ? S'enquit Descartes intrigué.
Eldon Rosen intervint alors d'une voix rauque.
« Rachel est le premier sujet que nous vous avons sélectionné. C'est peut-être un androïde. Nous espérons que vous allez pouvoir nous le dire. »
Il s'assit maladroitement, prit une cigarette, l'alluma et attendit, le regard fixe.